Howard Phillips Lovecraft. La couleur dans le météore. À l'ouest d'Arkham, les collines sont escarpées. Et dans les vallées s'étendent de sombres forêts qui n'ont jamais connu la hache. Il existe de ténébreux vallons où les arbres s'inclinent d'une façon fantastique et où de petits ruisseaux s'écoulent sans avoir jamais été touchés par les rayons du soleil. Sur les pentes moins abruptes se trouvent des fermes, anciennes et branlantes, avec des cottages trapus, couverts de mousse, ruminant éternellement les secrets de la vieille Nouvelle-Angleterre à l'abri de grandes saillies rocheuses. Mais tous sont maintenant abandonnés, leurs larges cheminées écroulées et leurs murs dangereusement bombés sous leurs toits à double pente. Les anciens habitants sont partis et les étrangers n'aiment pas à habiter dans ces parages. Des Canadiens français ont essayé, des Italiens ont essayé et des Polonais sont venus puis sont repartis. Ce n'était pas à cause de quelque chose qu'on pouvait voir ou entendre ou toucher, mais à cause de ce qu'on pouvait imaginer. Ce n'est pas un bon endroit pour l'imagination, et la nuit venue, les rêves ne sont pas paisibles. Ce doit être cela qui fait fuir les étrangers, car le vieil ami Pierce n'a jamais évoqué devant eux ses souvenirs de « ce drôle de temps-là », comme il dit. Ami, qui est un peu dérangé depuis des années, est le seul qui reste, et qui ose encore parler de cette période-là, et s'il le fait, c'est parce que sa maison est très proche de la plaine et des routes fréquentées qui mènent à Arkham. Autrefois, il y avait une route à travers les collines et les forêts. Elle passait juste là où se trouve maintenant la lande brûlée, mais les gens ont cessé de l'emprunter, et une nouvelle route a été tracée qui fait un détour loin au sud. Mais on peut retrouver les traces de l'ancienne route parmi les mauvaises herbes qui ont repris leurs droits, et on pourra certainement en trouver encore quand la moitié des vallées auront été inondées pour constituer le nouveau réservoir. Alors les sombres bois seront abattus, et la lande brûlée sera engloutie sous les profondes eaux bleues dont la surface reflètera le ciel et ondulera sous le soleil. Et les secrets de ces temps-là seront mêlés à ceux des profondeurs et ne feront plus qu'un avec le savoir secret du vieil océan et tous les mystères de la terre primordiale. Lorsque je me rendis dans ces collines et ces vallées pour étudier la mise en place du nouveau réservoir, tous m'avaient dit que l'endroit était maudit. Ils me l'avaient dit à Arkham, et comme c'est une très vieille ville pleine de légendes de sorcières, je pensais que cette malédiction venait des contes que les grands-mères racontaient aux enfants depuis des siècles. L'expression « lande brûlée » me semblait très bizarre et théâtrale, et je me demandais comment elle avait pu apparaître dans le folklore d'un peuple si puritain. Alors je vis par moi-même cet enchevêtrement de vallons et de collines qui s'étendait dans l'ouest, et je ne me posais plus de questions, si ce n'est sur les antiques mystères qui s'y trouvaient. C'était le matin, mais les ombres étaient toujours présentes en ces lieux. Les arbres y poussaient trop serrés et leur tronc était trop gros pour une forêt saine de Nouvelle-Angleterre. Il y avait trop de silence dans les maigres espaces qui les séparaient et trop de mousse humide au-dessus des couches d'humus accumulées depuis une infinité d'années. Dans les espaces ouverts, essentiellement le long de la vieille route, il y avait quelques fermes sur le flanc des collines, avec parfois tous leurs bâtiments debout, parfois seulement un ou deux, ou seulement une cheminée solitaire, ou une cave vite comblée. C'était le règne des mauvaises herbes et des ronces, et des êtres furtifs et sauvages se faufilaient dans les broussailles que couvrait une brume inquiétante et oppressante, qui avait quelque chose d'irréel et de grotesque, comme si un élément vital de perspective ou d'éclairage n'était pas en place. Je ne me demandais plus pourquoi les étrangers ne restaient pas, car ce n'était pas une région où l'on pût dormir. Elle ressemblait plutôt à un paysage de Salvator Rosa ou à une gravure interdite dans un récit de terreur. Mais même tout cela n'était rien à côté de la lande brûlée. Je le sus au moment même où j'y parvenais, au fond d'une large vallée, car aucun autre nom n'aurait pu convenir à une telle chose, tout comme aucune autre chose n'aurait pu convenir à un tel nom. C'était comme si le poète avait inventé cette expression après avoir vu ce lieu précis. Ce devait être, me dis-je, le résultat d'un feu, mais pourquoi rien n'avait-il jamais poussé sur ces 5 acres de désolation grise qui s'étendaient sous le ciel comme une vaste brûlure d'acide au milieu des champs et des bois? Elle s'étendait essentiellement au nord de l'ancienne route, mais aussi un peu de l'autre côté. Je ressentis une étrange réticence lorsque je m'approchai, et encore ne finis-je par le faire que parce que mon travail m'obligeait à la traverser. Il n'y avait aucune végétation d'aucune sorte dans cette vaste zone, mais seulement une fine poussière ou cendre grise sur laquelle aucun vent ne semblait jamais venir souffler. Les arbres aux alentours étaient malades et rabougris, et beaucoup de troncs morts se dressaient ou pourrissaient sur ses bords. Alors que je marchais avec hâte, je vis les briques et les pierres écroulées d'une vieille cheminée et d'une cave sur ma droite, et la gueule noire et béante d'un puits abandonné dont les vapeurs stagnantes jouaient étrangement avec les rayons du soleil. Même les ténèbres des longues pentes boisées au-delà semblaient accueillantes en comparaison, et en moi-même, je ne me moquais plus des murmures terrifiés des gens d'Arkham. Il n'y avait aucune maison ou ruine dans les environs. De tout temps, l'endroit avait dû être solitaire et loin de tout. Au crépuscule, inquiet à l'idée de traverser à nouveau ce lieu menaçant, je rentrai en ville en faisant un détour par la route du sud. J'espérais vaguement que des nuages s'amoncelleraient, car une crainte singulière des vastes étendues célestes s'était insinuée dans mon esprit. Dans la soirée, j'interrogeai de vieilles personnes à Arkham à propos de la lande brûlée, et pour savoir ce que signifiait l'expression « ces drôles de temps-là » que tout le monde murmurait d'une façon si évasive. Je ne pus toutefois obtenir la moindre réponse satisfaisante, si ce n'est que tout ce mystère était beaucoup plus récent que tout ce que j'avais pu imaginer. Il ne s'agissait pas du tout d'une vieille légende. Au contraire, cela s'était passé du vivant de ceux qui me parlaient. C'était dans les années 80 et une famille avait disparu ou avait été tuée. Il ne voulait rien me dire de plus précis, et, puisqu'il me disait de ne pas prêter attention aux folles histoires du vieil ami Pierce, je me mis à sa recherche dès le matin suivant, ayant entendu dire qu'il vivait seul dans le vieux cottage croulant qui se trouvait là où les arbres commençaient à pousser plus serrés. C'était un très vieil endroit, inquiétant, et il commençait à exhaler la vague odeur de miasme des maisons qui sont debout depuis trop longtemps. Il me fallut frapper de façon insistante pour réveiller le vieil homme, et quand il se traîna timidement jusqu'à la porte, je pus voir qu'il n'était pas heureux de me voir. Il n'était pas aussi faible que je m'y étais attendu, mais ses yeux étaient curieusement affaissés, et ses vêtements négligés et sa barbe blanche donnaient une impression d'épuisement et de tristesse. Ne sachant pas comment le lancer sur ses histoires, je feignis d'être là pour affaire, lui parler de mon étude et lui poser de vagues questions concernant le district. C'était un homme beaucoup plus intelligent et éduqué que je ne m'y attendais, et avant que je ne m'en rende compte, il avait abordé le sujet aussi complètement que tous les hommes avec qui j'avais parlé à Arkham. Il n'était pas comme les autres rustaux que j'avais rencontrés dans les sections où devait se trouver le réservoir. Il ne protesta pas à propos des miles de vieilles forêts et de terres agricoles qui allaient être englouties, encore que c'eût peut-être été différent si sa demeure n'avait pas été au-delà des limites du futur lac. Il ne montra que du soulagement pour le destin des sombres et anciennes vallées qu'il avait parcouru pendant toute sa vie. Elles seront bien mieux sous l'eau maintenant, bien mieux sous l'eau depuis ces drôles de temps-là. Après cette entrée en matière, sa voix rauque se fit plus basse, tandis qu'il se penchait, l'index pointé en avant et tremblant d'une façon impressionnante. C'est alors que j'entendis l'histoire. Et tandis que la voix grinçante et divagante murmurait à mes oreilles, je tremblais et tremblais encore, malgré la chaleur de cette journée d'été. Souvent, je devais interrompre ces digressions, compléter des points scientifiques qu'il n'avait que vaguement mémorisés en entendant le discours des spécialistes, ou combler les lacunes lorsque son sens de la logique et de la continuité se trouvait défaillant. Quand il eut terminé, je ne m'étonnais plus que son esprit soit quelque peu dérangé ou que les gens d'Arkham ne parlent pas plus de la lande brûlée. Je me précipitai avant la nuit à mon hôtel, ne voulant pas voir apparaître les étoiles au-dessus de moi en terrain découvert, et le jour suivant, je rentrai à Boston et donnai ma démission. Il m'était impossible de retourner dans ce vague chaos de forêts escarpées ou de faire face à nouveau à cette lande brûlée grise où le puits noir et profond béait à côté des briques et des pierres écroulées. Le réservoir sera bientôt mis en place maintenant, et tous ces anciens secrets seront scellés à jamais sous l'eau profonde. Mais même ainsi, je ne crois pas que j'aimerais visiter ce pays de nuit, en tout cas pas sous les étoiles sinistres, et rien ne pourrait me convaincre de boire la nouvelle eau d'Arkham. Tout avait commencé, me dit le vieil ami, avec la météorite. Jusqu'à ce moment, il n'y avait eu aucune légende étrange depuis les procès des sorcières. Et même en ce temps-là, les bois de l'Ouest n'étaient pas à moitié aussi craints que cette petite île du Miskatonic où le diable avait élu domicile à côté de cet étrange hôtel de pierre plus ancien que les Indiens. ce n'étaient pas des bois hantés, et leurs ténèbres fantastiques n'étaient pas effrayantes avant ce drôle de temps-là. Alors, il y avait eu ce nuage blanc en plein midi, cette série d'explosions dans l'air, et cette colonne de fumée qui s'élevait de la vallée lointaine au fond des bois. Et dès le soir, tout Arkham avait entendu parler de ce gros rocher qui était tombé du ciel et s'était enfoncé dans le sol à côté du puits de chez Nahum Gardner. Il s'agissait de la maison qui se trouvait là où la lande brûlée devait plus tard apparaître, la jolie maison blanche de Nahum Gardner au milieu de ses jardins et ses vergers fertiles. Nahum était venu en ville pour parler de la pierre et s'était arrêté en chemin chez Amy Pierce. Amy avait alors 40 ans et toutes ces choses étranges se sont gravées très profondément dans son esprit. Lui et son épouse accompagnèrent le lendemain matin les 3 professeurs de l'université de Miskatonic qui se précipitèrent pour voir cet étrange visiteur venu des espaces stellaires inconnus. Et ils se demandèrent pourquoi Nahum avait parlé la veille d'une si grosse pierre. « Elle a rétréci, » dit Nahum, qui désignait du doigt le gros monticule brun qui s'élevait au-dessus du sillon tracé dans la terre et l'herbe carbonisée près du vieux puits à bascule de la cour. Mais les savants répliquèrent que les pierres ne rétrécissaient pas. Sa chaleur était encore sensible, et Nahum déclara qu'elle luisait faiblement dans la nuit. Les professeurs l'étudièrent avec un marteau de géologue et la trouvèrent curieusement tendre, tellement tendre qu'en vérité, elle était presque plastique. Et, faute de pouvoir en faire sauter un éclat, ils durent littéralement y tailler l'échantillon qu'ils voulaient ramener à l'université pour analyse. Ils l'emportèrent dans un vieux seau emprunté dans la cuisine de Nahum, car même ce petit morceau refusait de refroidir. Sur le chemin du retour, ils s'arrêtèrent chez Amy pour se reposer et demeurèrent pensifs quand Mrs. Pierce leur fit remarquer que le fragment continuait à rétrécir et qu'il brûlait même le fond du seau. En vérité, il n'était pas bien grand, mais peut-être en avait-il récolté moins qu'il ne l'avait pensé. Le jour suivant, tout cela se passait en juin 82, les professeurs étaient revenus très excités. Passant devant chez Amy, ils lui racontèrent le comportement étrange du spécimen et comment il avait complètement disparu quand il l'avait mis dans un récipient de verre. Le récipient avait disparu lui aussi, et les savants parlaient des curieuses affinités de la pierre avec le silicium. Elle s'était comportée d'une façon complètement incroyable dans ce laboratoire bien équipé, ne présentant aucune réaction et n'expulsant aucun gaz emprisonné lorsqu'on la chauffait au charbon, totalement insensible aux bains de borax et se révélant totalement non volatile quand on la soumettait à la plus forte chaleur qu'on pût produire, y compris au moyen du chalumeau à oxyhydrogène. Sur une enclume, elle se révéla hautement malléable, et dans l'obscurité, sa luminosité était très remarquable. Se refusant toujours obstinément à refroidir, elle mit bientôt toute l'université dans une réelle effervescence. Et quand, mise à chauffer sous le spectroscope, elle révéla des bandes lumineuses qui différaient de toutes les couleurs connues du spectre, il y eut encore plus de discussions animées à propos de nouveaux éléments, de propriétés optiques bizarres et d'autres mots que les hommes de science dépassés prononcent quand ils sont face à l'inconnu.